Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
En France, la tempête Xynthia de 2010 et l'érosion brutale de la côte aquitaine, notamment lors de l'hiver 2013-2014, ont révélé la vulnérabilité des territoires littoraux et ont stimulé du même coup la recherche dans le domaine de la gestion des risques. Alors, Thomas Béjoin est architecte urbaniste. Depuis 2017, il approfondit les questions et les problématiques liées aux risques littoraux à travers notamment une thèse de doctorat en architecture intitulée « Les stratégies d'aménagement à l'épreuve des aléas littoraux ». Bonjour Thomas.
Bonjour Bernard.
Alors, historiquement, le peuplement du littoral, au fond, c'est une vocation portuaire, une vocation commerciale, et puis un peu plus de deux siècles, une vocation balnéaire. Et dans les cas nécessaires, on a évidemment développé des ouvrages qui sont des ouvrages de défense contre la mer lorsqu'il fallait s'en protéger. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut développer drastiquement partout aujourd'hui sur toutes les côtes ?
Alors effectivement, vous avez raison de le souligner, historiquement, le peuplement du littoral, il est surtout rétro-littoral, c'est-à-dire que les premières installations humaines, elles se font plutôt à distance du littoral ou des côtes qui sont considérées comme un milieu dangereux. Et effectivement, c'est à partir du 19e siècle qu'un tournant s'amorce, est stimulé par un changement de regard vraiment sur cet espace du littoral qui devient un lieu attractif. Et à partir de là, 19e, 20e siècle, le tourisme balnéaire va jouer un rôle clé dans l'attractivité des territoires côtiers. Si bien que à la fin du 20e siècle, malgré des tentatives de réguler un peu cette urbanisation, on constate un peu partout dans le monde que les côtes sont le siège d'une urbanisation parfois anarchique et pas toujours maîtrisée. Cette urbanisation, évidemment, elle est soutenue par la construction d'ouvrages dont on pense au XXe siècle qu'ils permettront de gérer en fait les risques et d'affronter ou en tout cas de contenir les aléas littoraux. Or, ce que nous apprennent les récents épisodes que vous avez évoqués, Xynthia, Le Signal, c'est que finalement, ces ouvrages, ils n'ont pas du tout empêché la dynamique littorale. Donc, le rivage est resté un environnement, un milieu éminemment mobile, et tout ce qu'on a édifié dessus ou à proximité se retrouve aujourd'hui confronté à un problème de grande instabilité ou fragilité, en tout cas, par rapport à ces mouvements. Donc, sur la question des ouvrages, aujourd'hui, il y a une vraie remise en question de la capacité de ces ouvrages à nous prémunir contre les risques, notamment parce qu'on le voit bien, ils sont pas toujours efficaces, et puis surtout, ils contribuent activement à dissimuler des risques et des dangers, et de manière un peu perverse, à encourager une urbanisation le fait d'être protégé par ces ouvrages nous permettait de pouvoir continuer à nous développer sans trop se poser de questions par rapport à notre environnement littoral. Un autre point très important qui fait qu'aujourd'hui on en revient un petit peu de ces ouvrages, et ben c'est tout simplement leur coût, parce qu'ils ont un coût colossal au moment de leur mise en place avec les travaux d'études et puis de mise en œuvre. Et puis, ils ont un coût dans la durée, parce qu'il faut les maintenir tout au long de leur durée de vie. Et ça, ni les collectivités, ni l'État, ni les partenaires privés, aujourd'hui, n'ont vraiment la capacité à garantir cette maintenance sur le long terme. Et donc, à cela s'ajoutent en plus les effets néfastes de ces ouvrages sur l'environnement, qui renforcent encore un peu plus les déséquilibres qu'il peut y avoir sur des questions d'équilibre sédimentaire et de stabilité du trait de côte. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de consensus, je dirais au sens large, sur le fait qu'on a besoin de changer de paradigme.
D'accord. Cela étant, ce sont à peu près 2/3 de la population mondiale qui vivent à moins de 100 km des côtes aujourd'hui. Cette littoralisation a plutôt tendance à s'accentuer. Autrement dit, les situations de risque se multiplient. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et d'abord, est-ce qu'il y a une épaisseur du littoral, de l'urbanisation du littoral pertinente.
Alors effectivement, comme vous le soulignez, il y a un phénomène de littoralisation qu'on n'a pas réussi à juguler. Et donc, on pourrait se dire, partir sur une hypothèse complètement décroissante en disant il faut arrêter de peupler le littoral de manière drastique. Je ne suis pas complètement convaincu que ce serait une hypothèse réaliste. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on deal aujourd'hui avec cette urbanisation et cette attractivité qui se maintiennent? Et comment est-ce qu'on gère au mieux les rapports entre dynamique naturelle et peuplement dans ces espaces pour éviter la multiplication des risques. Comme vous le suggérez, et c'est vraiment l'hypothèse que j'approfondis à travers mon travail de recherche, il est nécessaire aujourd'hui de ne plus considérer le rivage comme une simple ligne, où en fait ça a été l'image pendant des années du front de mer, où on a cherché à mettre en scène quelque part l'affrontement entre l'homme et la nature. Et aujourd'hui, c'est vraiment sur ce paradigme-là qu'il va falloir revenir et retravailler pour essayer de retrouver des épaisseurs territoriales plus importantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement essayer de faire en sorte que les logiques liées à la mobilité du rivage et aux continuités qu'il y a entre terre et mer deviennent vraiment structurantes pour l'urbanisation. Et donc ainsi, essayer de faire converger des logiques qui sont celles des écoulements de l'eau. Donc ça pourrait être, pour le schématiser, hein, pour le prendre de manière simple, en gros, c'est l'articulation entre les bassins versants et le rivage. Et bien, ces structures-là, aujourd'hui, elles doivent être remises au centre de l'urbanisation et de l'aménagement. Ce qui suppose effectivement de réfléchir à des épaisseurs territoriales un peu importantes. On est plutôt sur un ordre de grandeur d'une, je dirais en moyenne, d'une bonne quinzaine ou vingtaine de kilomètres, sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, l'attractivité du littoral conduit tout un tas de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'habiter en première ligne à rechercher à se loger sur effectivement des épaisseurs très importantes. Ce qui explique vraiment que quand on regarde une carte de France à l'échelle des départements côtiers, on constate que ces départements accueillent de plus en plus de populations.
Alors justement, vous vous êtes livré à l'analyse de 5 territoires côtiers dans votre thèse. Je les cite, sauf erreur, le Barcarès, La Rochelle, Lacanau, Saint-Nazaire et Salins-de-Giraud. Salins-de-Giraud, c'est en Camargue. Qu'est-ce que ça nous apprend, cette analyse et ces comparaisons? J'imagine que vous avez pris évidemment des territoires dans lesquels les aménagements sont de nature différente. Et tout particulièrement, qu'est-ce que ça nous apprend Salins-de-Giraud, qui est probablement le moins connu?
Alors, ce que ça nous apprend, oui, donc c'est vrai qu'il faut souligner que ce sont des territoires qui ont à la fois des types d'urbanisation et des types de côtes très très différentes. Sur certains, on va être vraiment sur de la dune et de la station balnéaire. Sur d'autres, sur des paysages de marais avec des archétypes plutôt de villes portuaires. Et donc forcément, ils ont des échelles et ils réunissent des objets qui sont très très différents. Néanmoins, moi j'ai essayé vraiment de construire une méthode qui me permettait de trouver des points de comparaison à travers un travail de cartographie qui donne un peu un référentiel commun d'analyse. Et ce que ça nous apprend, c'est tout d'abord qu'en France, il y a aujourd'hui une grosse différence entre la manière dont est traitée l'érosion et la manière dont est traitée la submersion. Une des explications que j'avance dans mon travail de recherche, c'est que la submersion, c'est un phénomène qui est ponctuel, qui n'est pas permanent. Épisodiquement, le sol va être submergé, mais petit à petit, il va y avoir un retour à la normale. Là où l'érosion apparaît comme un phénomène bien plus inéluctable, parce qu'il se traduit vraiment purement et simplement par une disparition, une perte du sol. Donc ça, c'est une différence fondamentale qui permet aux aménageurs ou à certaines collectivités de continuer à envisager de faire certains ouvrages pour faire face à la submersion, mais qui laisse les collectivités et les aménageurs très dépourvus sur la question de l'érosion, parce que faire concrètement face à la disparition du sol? Eh bien, à part bouger, il n'y a pas énormément d'autres solutions.
Un deuxième... Peut-être en tout cas pour l'avenir, cesser d'y construire.
Déjà, c'est d'y construire. Et ça, c'est vraiment la voie que commencent à emprunter certaines collectivités. Alors, certes, aujourd'hui, on n'a pas encore tous les outils juridiques, financiers, pour accompagner vraiment une adaptation pleine et entière de ces territoires. Néanmoins, on a certaines communes qui commencent à mettre en place à proximité du rivage une zone qui s'appelle UBL dans le PLU, dans laquelle ne sont plus autorisées que des constructions temporaires et précaires, c'est-à-dire légères. Toutes les constructions lourdes se feront dorénavant plus en retrait du rivage. Donc on voit bien que même s'il n'y a pas encore tous les outils nécessaires, ben les collectivités n'attendent pas pour réfléchir à des solutions innovantes qui permettent, avec les outils existants, de commencer à préparer le terrain pour une adaptation de ces territoires. Et donc finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que de fait, même si l'idée, on va dire, d'épaisseur littorale, elle n'est pas encore mobilisée pleinement de manière consciente comme un concept d'aménagement, de fait, dans les politiques publiques et dans l'aménagement, on voit bien que les communes littorales projettent aujourd'hui leurs gros équipements plus en retrait. Donc ça, c'est une différence fondamentale avec ce qu'on a pu faire dans les années 70, 80, 90.
D'accord. Alors, dernière question, comment désormais mieux intégrer les édifices et les dynamiques naturelles? Puisque finalement, si je vous ai bien compris, je vais le dire à ma façon, mais j'ai l'impression qu'il ne s'agit plus de lutter contre de façon défensive, mais de faire avec. Et donc, faut-il apprendre à concevoir et à construire autrement en milieu littoral?
Alors, tout à fait. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui d'accepter, de considérer la dynamique naturelle comme quelque chose qui est prégnant et qui est structurant pour le développement des activités humaines. Et donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, déjà, c'est montrer aux gens le risque, faire prendre conscience au maximum d'acteurs de l'existence de ces risques pour faire admettre qu'il faut composer avec ça. Le deuxième point, c'est vraiment de travailler sur une compréhension fine des logiques de sol pour les intégrer finalement aux documents d'urbanisme. Et à l'échelle de l'édifice, considérer qu'aujourd'hui on a besoin de davantage de souplesse, davantage de réversibilité parfois, et davantage de transparence hydraulique. Alors tout ça, ça passe par des dispositifs qui sont pas forcément très innovants, c'est des choses qui sont connues, ça peut être des pilotis, ça peut être de travailler sur des niveaux de plancher rehaussés, ça peut être de travailler sur des structures démontables. Néanmoins, moi je souhaite vraiment attirer l'attention de l'ensemble des parties prenantes sur le fait que des solutions techniques qui sont aujourd'hui très très mises en avant, comme les maisons flottantes, les cabanes ou les constructions sur pilotis, ne peuvent pas à elles seules résoudre la question de l'adaptation de ces territoires côtiers. C'est-à-dire que ne penser ce problème-là qu'au prisme de la solution technique individuelle prise à l'échelle du bâtiment, c'est se tromper. Parce que l'adaptation, aujourd'hui, engage vraiment une échelle qui est avant tout territoriale. Et donc, c'est vraiment sur l'articulation entre le principe constructif des édifices et la mise en place d'une structure territoriale cohérente, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Et donc, méfiance avec les grands slogans sur les maisons flottantes et les pilotis. Un autre point important qu'il faut souligner, c'est que c'est pas seulement une contrainte. Il faut pas voir la question des dynamiques naturelles comme une contrainte, mais vraiment comme un levier pour redonner aussi de la valeur à notre cadre de vie. Et finalement, se poser la question de quelle peut être la place de ces dynamiques naturelles en ville. Donc, qu'est-ce que ça fait dans un tissu urbain de ne plus tourner le dos à un cours d'eau, mais au contraire, de lui donner vraiment toute sa place et toute sa légitimité en tant que grande structure territoriale, que lieu de promenade, que support d'usage. Eh bien, c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser aujourd'hui pour revaloriser nos tissus urbains et nos espaces habités du littoral.
Je retiens que c'est une illustration de plus du fait que il faut cesser de considérer la nature comme un décor. Comme un décor que l'on garde là en front de mer, dans l'exemple que vous évoquiez tout à l'heure, mais bien comme un ensemble auquel nous appartenons et avec lequel il faut donc composer le plus intelligemment possible. Vous nous y aidez beaucoup. Merci Thomas, à bientôt j'espère.
Merci Bernard, à bientôt.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.